Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des empoignades, des petites phrases et du fond, on l'espère. Débat décisif avant les européennes sur France Inter et sur France 2 ce soir. Beaucoup d'électeurs sont encore indécis. On va voir qu'un débat, ça peut faire bouger les lignes. Exemple, pour mémoire, les européennes de 2009, les Verts avaient fini par tirer leur épingle du jeu. On verra si votre invité de 8h20 s'en souvient, Nicolas.
Il s'agit de Yannick Jadot qui emmène la liste Europe Écologie Les Verts dans ces élections européennes. Appelez-nous, vous pouvez intervenir, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
Que deviennent les grandes annonces politiques? Parfois pas grand-chose, c'est assez flagrant sur les banlieues, vous allez le voir, un an après la nouvelle méthode promise par Emmanuel Macron. Au sommaire, également des milliers d'Américains qui manifestent pour défendre le droit à l'avortement. Mayotte qui s'est affaissée de 13 cm en un an à cause du volcan qu'on vient de découvrir. Et le Tom Waits belge à 70 ans, Arnaud a fêté son anniversaire à Ostende hier et c'était vachement bien.
France Inter.
Dans une campagne électorale, il y a les débats destinés à tous ceux qui regardent la télé dans leur salon ou qui écouteront France Inter. Ce soir, on va y venir. Et puis, il y a les meetings dont seules les saillies sont reprises par la presse. Martine Aubry, aux côtés de Raphaël Glucksmann hier soir, et sa cartouche contre Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Avec lui, on sait qu'on va dans le mur. Ou Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy, qualifiant Emmanuel Macron de narcissique, acteur de la dislocation de l'Europe. Ces messages sont délivrés devant quelques centaines de spectateurs. En général, ils sont déjà convaincus, mais pas toujours. La preuve avec le dernier meeting du Rassemblement National hier soir à Villeblevin dans l'Yonne, suivi pour nous par Maxence Lambrecq.
À 4 jours du scrutin, l'électorat semble toujours aussi volatile.
On hésite encore, oui.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas encore pour quelle raison, en fait.
J'étais à droite, mais il n'y a plus personne qui m'intéresse. J'hésite justement entre Dupont-d'Aignan et puis Marine.
J'ai pour l'instant le cœur qui balance entre Macron et Marine Le Pen, mais bon, peut-être que ce soir, Marine va nous convaincre.
Marine Le Pen veut d'abord convaincre les Gilets jaunes.
À ceux qui ont été sur les ronds-points, qui se sont battus pour porter des revendications. Alors, est-ce que vous avez envie de lui faire un chèque en blanc le 26 mai ? Voilà, c'est la raison pour laquelle, évidemment, il ne faut pas qu'il arrive en tête.
Et face à tous ces indécis, Marine Le Pen diversifie ses attaques et s'en prend violemment à Jean-Luc Mélenchon.
La France insoumise devrait s'appeler la France islamiste.
La droite a aussi le droit à sa tirade sur le thème « Voter LR, ça sert à rien ».
Ils n'auront aucun pouvoir au Parlement européen. Ils sont minoritaires dans leur propre groupe. Ils sont sous la coupe de la CDU de Mme Merkel. Qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 11, ça changera rien.
Enfin, elle n'oublie pas ses anciens amis, Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot.
Vous avez encore quelques jours pour aller dire à ceux qui veulent voter pour des petites listes qui ne feront pas les 5%, qui n'auront donc pas d'élus, que leur voix va être gâchée.
Marine Le Pen sait très bien qu'un bon score de Nicolas Dupont-Aignan pourrait lui faire rater la première place. Villeblevin, Maxence Lambrecq, France Inter.
Voilà pourquoi le débat de ce soir sera décisif sur France 2 et sur France Inter. Certes, les sondages sont relativement stables depuis un mois qui annonce un duel serré entre La République En Marche et le Rassemblement National en tête. Mais gare au scénario écrit d'avance, Yael Gauz, ils sont parfois bousculés par les débats.
Attention aux caprices de la météo électorale européenne de juin 2009. Dans les sondages, les jeux sont faits. L'UMP fait la course en tête devant les socialistes, le Modem et Europe Écologie Les Verts. Mais 4 jours avant le vote, il se passe quelque chose. Ultime débat sur France 2. Arlette Chabot arbitre le duel Bayrou-Cohn-Bendit.
Dire comme ça, je suis l'ami de Sarkozy, mais c'est pas de ton niveau. Tu veux être président, reviens sur terre François. On est dans une élection européenne, nous sommes des Européens, aussi bien toi que moi.
Quand on fait des réponses trop longues, c'est qu'on se sent mal. Parce que les Français, eux, ils sont pas connivants.
Le dimanche suivant, le Modem s'effondre à 8%, les Verts s'envolent, 16%, quasi ex-aequo avec le PS. Pourquoi ce yo-yo ? Eh bien parce que beaucoup de sondés n'étaient pas encore sûrs de leur choix. Même incertitude aujourd'hui, à gauche notamment, dans la dernière enquête Ipsos, seulement la moitié des électeurs socialistes se disent certains de voter pour la liste de Raphaël Glucksmann. Moins d'un électeur sur deux chez Europe Écologie Les Verts. Du doute aussi à droite, dans le camp Dupont-Aignan, 2/3 de ces électeurs peuvent encore changer d'avis. Attention donc au transfert de dernière minute. La prestation des candidats sera décisive ce soir pour faire bouger les lignes et mobiliser des électeurs pour l'instant majoritairement tentés par l'abstention.
Début du débat à 21h en deux temps avec 6 candidats d'abord, ceux dont les listes font la course en tête avant 9 autres en deuxième partie de soirée. France Inter prendra l'antenne dès 20h pour poser poser les enjeux de cette fin de campagne avec Fabienne Sintès.
Il est 8h06 et comme tous les jours de la semaine, nous continuons à décliner notre série La campagne ailleurs en Europe. Ce matin, direction la Pologne.
Où les derniers sondages donnent les ultra-conservateurs du PiS au pouvoir au coude à coude avec leurs opposants libéraux de la coalition européenne. Dans ce contexte, un film pourrait faire pencher la balance, un documentaire sur la pédophilie dans l'Église, déjà vu plus de 20 millions de fois sur YouTube, qui a fait irruption dans la campagne depuis sa sortie il y a 10 jours. Plombera-t-il le PiS, fervent défenseur de l'Église? Question posée par Thomas Giraudeau à Varsovie.
Ses amis ont été choqués par le film. Bojena, elle, n'est pas surprise. Cette étudiante avait déjà entendu parler de la pédophilie dans l'église polonaise. Pas sûr que les électeurs du PiS s'y intéressent aussi.
Le problème, c'est que ce documentaire n'est diffusé que sur YouTube, pas à la télévision. Du coup, je pense que les générations plus âgées ne l'ont pas vu et qu'elles voteront comme si ce film n'avait jamais existé.
Une opinion confirmée par Radosław Markowski, politologue à l'université de Varsovie. Pour lui, l'électorat du PiS est très attaché à l'église.
Le parti au pouvoir, le PiS, a 5,5 millions d'électeurs qui leur sont dévoués. Certains d'entre eux vont penser que le film est encore une attaque contre la chrétienté, nos valeurs catholiques. Donc bien sûr, ils ne vont pas changer d'avis.
À l'inverse, le film pourrait plutôt remobiliser les anti-PiS, les libéraux qui se déplacent moins aux urnes. Dorota supporte l'opposition et compte sur un sursaut.
De plus en plus de gens sont en colère face à ce qui se passe dans l'Église et le fait qu'elle mette ses affaires sous le tapis. J'espère que ce film va mobiliser les gens qui d'habitude ne votent pas. Cette fois-ci, ils vont y aller et voter contre.
Preuve peut-être que le pouvoir s'inquiète de l'impact du film sur l'élection. Le PiS a réagi très vite après sa sortie, modifiant le code pénal pour sanctionner plus durement les actes pédophiles. Varsovie, Thomas Giraudeau, France Inter.
Et quelle est la place des fake news dans cette élection européenne? L'ONG Avaaz annonce avoir débusqué et signalé plus de 500 pages et groupes Facebook qui attisent la haine contre les migrants ou qui dénigrent Bruxelles, notamment à coup de fausses informations et dont les contenus ont été vus plus de 500 millions de fois ces trois derniers mois. Facebook comme Google, Amazon, Apple ou Airbnb, sans doute taxés dès cette année en France. La taxe GAFA a été votée cette nuit au Sénat en première lecture. Elle devrait rapporter 400 millions d'euros à l'État cette année, en attendant que les pays de l'OCDE trouvent une position commune.
Il est 8h08, Florence Paracuellos, comme si rien n'était jamais acquis.
Aux États-Unis, les reculs des dernières semaines sur l'avortement sont spectaculaires. Plusieurs États ont adopté des lois extrêmement restrictives, jusqu'à l'interdiction votée en Alabama, à la seule exception des cas où la vie de la mère serait menacée, ce qui fait frémir nombre d'Américains descendus par milliers dans les rues des grandes villes hier. Reportage dans la manifestation de Washington, signé Grégory Phillips.
Le lieu du rassemblement, évidemment, est symbolique. La Cour suprême des États-Unis, la plus haute instance judiciaire du pays, qui en 73 a rendu le fameux arrêt Roe contre Wade et qui a légalisé l'avortement au niveau fédéral. Moi, j'ai 67 ans, dit Janice, et j'étais là il y a 50 ans. Donc je suis vraiment très énervé de devoir me battre encore pour cela aujourd'hui. Dans la foule, quelques hommes, beaucoup de femmes, de toutes les générations. Jasmine a 18 ans, furieuse, depuis que l'Alabama a voté cette loi interdisant l'IVG, même en cas d'inceste ou de viol. Moi, je suis étudiante à l'université. On sait que les jeunes femmes de mon âge, elles peuvent se faire agresser sexuellement. Si ça devait m'arriver, ou à l'une de mes sœurs, je veux qu'on continue à avoir le choix. Sur les marches de la Cour suprême, on voit défiler une poignée de candidats à la Maison Blanche et actuellement en course pour l'investiture démocrate. Il paraît assez évident que le droit à l'avortement sera une question centrale pour 2020. C'est un sujet pour aujourd'hui, pour dans un mois, pour l'année prochaine, dit le sénateur et candidat Cory Booker, jusqu'à ce qu'on soit certain que ce droit constitutionnel sera préservé. Dans un sondage récent, un peu plus de 70% des Américains pensent qu'il ne faut pas remettre en cause ce droit à l'interruption volontaire de grossesse. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Bachar el-Assad a-t-il de nouveau eu recours aux armes chimiques dans la région d'Idlib en Syrie? C'est ce que croient savoir les États-Unis, qui ont des doutes sur une possible attaque au chlore perpétrée dimanche matin. Si cela se confirme, Washington et ses alliés réagiront rapidement, a dit le département d'État.
Il est 8h10, c'était il y a tout juste un an, la remise du rapport Borloo sur les banlieues, Florence, balayée d'un revers de main par Emmanuel Macron.
On se souvient de sa phrase sur les mâles blancs et éloignée de la réalité à la place des propositions de l'ancien ministre. Le président avait donc promis une nouvelle méthode pour repenser la politique des quartiers périphériques et créer un conseil présidentiel des villes composé d'une vingtaine d'acteurs issus de la banlieue. Leur mission, faire remonter les idées à Emmanuel Macron lui-même. Un an plus tard, où en est-on, Claire Chaudière? À peu près au point de départ.
Les 25 membres du Conseil présidentiel des villes, associatifs, sportifs, artistes, entrepreneurs, répètent avoir joué le jeu en phosphorant sur l'égalité des chances ou encore le trafic qui gangrène certains quartiers. Mais ils ne s'attendaient pas à voir aussi peu le président une fois lors du lancement, puis plus rien.
La promesse était qu'on se revoie 3-4 fois dans l'année avec le président. Le président, on l'a pas vu. On l'a pas revu.
Majid El-Jaroudi de l'Association pour la diversité entrepreneuriale parmi les personnalités sélectionnées.
On s'est beaucoup réunis, on a produit beaucoup d'idées, on prend ça très au sérieux, tous. Donc au bout d'un moment, si on voit que ça avance pas, on va arrêter de le faire.
Choisi lui aussi il y a un an, Mohamed Meshmash de la coordination Passons-nous.
Si cette instance elle existe pour avoir des leviers et faire avancer les choses, oui, si c'est pas le cas, je ne resterai pas juste pour la vitrine.
Et vu de l'extérieur, cette fois, ce conseil présidentiel génère aussi des frustrations. Hassène Amou du collectif Marseille est trop jeune pour mourir demande aujourd'hui sa suppression.
On s'en est servi à la suite de l'abandon du rapport Borloo pour contenter quelque sorte les quartiers. On a perdu énormément de temps. Il y a de l'absence de services publics dans certains territoires. Donc qui c'est qui reprend la main? Souvent, c'est la drogue. C'est eux le service public. Ça fait un an qu'on ne voit rien sortir. C'est jamais le bon moment.
Faute d'une implication ou de réponse rapide du président, le conseil se désagrégera de toute façon de lui-même, lâche l'un de ses membres, qui veut encore croire à un sursaut dans les prochaines semaines.
L'Assemblée a fini d'examiner la loi sur la fonction publique et dans la dernière ligne droite cette nuit, les députés ont voté l'exonération du jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les fonctionnaires enceintes. C'est une île française qui s'affaisse dans l'océan Indien. Mayotte est sur un volcan, on le sait depuis la semaine dernière, il se trouve plus précisément à 50 km des côtes. Il a fait trembler l'île à 1800 reprises depuis un an, ce qui n'est pas sans conséquence, puisqu'on vient de s'apercevoir, Sébastien Sabiron, qu'en un an, Mayotte s'est déplacée de 10 cm vers l'est en s'enfonçant de 13 cm.
Mohamed Mandjier est adjoint au maire de Mamoudzou, préfecture de l'île. Chargé de l'aménagement du territoire, il est régulièrement alerté sur la montée des eaux qu'il a lui-même constatée.
À la rocade de Mamoudzou, il y a une forte montée des eaux de mer. J'ai même reçu une photo de l'aéroport, on voit des traces d'eau sur la moitié de la piste. Et je n'ai jamais vu ça.
Le phénomène serait dû à la vidange d'une poche de magma profonde. Saïd Saïd Hachim est géographe et spécialiste des risques naturels à Mayotte, impressionné par la rapidité de cet affaissement.
L'affaissement normal de l'île est de 0,19 cm par an. Et là, on est à 13 cm par an. Vous avez des habitations qui normalement étaient en dehors de zones submersibles qui vont être submergés lors d'un événement majeur tel un cyclone ou une houle exceptionnelle.
D'où l'urgence de remettre à plat les plans de prévention des risques et pourquoi pas aussi l'aménagement urbain de l'île, estime Mohamed Mandjier.
On ne peut pas dire que nous ne savions pas. Maintenant, nous savons. Il nous appartient aujourd'hui d'anticiper la façon dont nous construisons, la façon dont nous installons nos zones d'activité économique. Nous devons faire en sorte à ce que demain, il n'y ait pas de vie mise en danger.
À Mayotte, 70% des habitations sont en bordure de littoral. Une mission de la sécurité civile s'est posée la semaine dernière pour actualiser les dispositifs de gestion de crise.
Une bande continue de verdure entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. Voilà qui va changer la face de la capitale. Anne Hidalgo a annoncé hier la transformation de tout le secteur pour 2024, repensée par l'architecte paysagiste américaine Catherine Gustafson avec un pont d'Iéna piétonnisé et planté d'arbres, entre autres. Tarantino en force au Festival de Cannes hier. Once Upon a Time in Hollywood, ovationné après la projection. Il va falloir attendre le 6 novembre pour le voir en salle ce soir. Place à Xavier Dolan et à Arnaud Desplechin. À lui, on peut déjà décerner la palme du rocker européen le plus foutraque et le plus touchant. Le Belge Arnaud a fêté ses 70 ans dans sa ville natale d'Ostende. La salle... Pardon, j'en racle comme lui. La salle était pleine, Mathieu Culeron, pour l'entendre chanter ses classiques et quelques nouveautés.
Je suis seul avec toi. Bonsoir.
Devant son public, Arnaud offre un nouveau titre de son futur album, une chanson en hommage à Ostende, la ville où tout a commencé pour le rocker belge.
Moi, je suis né ici, oui. J'ai perdu ma virginité ici. Et c'était un tremblement de terre pour moi. Dans les années 60, tous les groupes de l'Angleterre viennent ici, quoi. Et j'ai vu Bill Haley and the Rockets.
Putain, putain, c'est vachement bien.
nous sommes quand même tous des Européens.
Le jour de ses 70 ans, Arnaud chante ses plus grandes chansons, les plus anciennes aussi. Au milieu des années 80, avec son groupe Thématique, il chante « Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes tous des Européens ». Dans son prochain disque, en revanche, le chanteur dépeint une Europe qui lui fait désormais peur.
On a vécu ça en Europe dans les années 40, hein. Tu vois le bazar. Et ce sont des nouveaux, quoi. Et j'ai peur pour ça.
Ma mère est là, quelque chose.
Arnaud termine son show devant un public debout, le chanteur belge toujours aussi drôle, émouvant et passionné.
J'aime l'odeur des moules et du sable, donc le mélange de ça, j'adore.
Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
On n'a pas envie de couper, Nicolas.
Non.
Mais apparemment, on est obligé.
Oui, c'est l'heure. Vous avez la même voix hein, quand vous êtes enroué. C'est impressionnant, quel bel hommage.
Alors, je ne sortirai pas de disque, à la différence d'Arnaud, dont on attend un prochain opus.
Mais il y a les podcasts. Merci Florence Paracuelos.